l'image d'une croyance.
Si l'utopie a manifesté toutes les dimensions que j'ai dites tout à l'heure, l'autre espace, l'autre temps, la liberté, la contingence, c'est parce qu'à la base, il y a comme un fait le désir d'une réalité existentielle plus riche. En vérité, on vient de rencontrer même, dans ce que j'appellerais donc le désir de plénitude ou le désir de bonheur, on vient de rencontrer le fondement humain, le fondement existentiel, non seulement des utopies, mais de tous les messianismes, de toutes les sotériologies, c'est-à-dire les métaphysiques du salut de l'âme, de toutes les philosophies historiques. On ne peut comprendre aucun de ces mouvements de construction de l'avenir dans l'humanité, à travers toutes les cultures, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les poésies, toutes les littératures, toutes les sagesses. On ne peut rien comprendre, aucune d'elles, si l'on ne place pas la base de tous ces mouvements culturels, politiques, messianiques, sotériologiques et utopistes, le désir d'une plus grande force d'existence, le désir d'une plus grande plénitude d'existence, que je résume par une expression simple, qui est le désir du bonheur, mais qui doit bien entendu représenter à vos yeux quelque chose d'autre que la satisfaction empirique quotidienne. Le bonheur n'a rien à voir avec la satisfaction instantanée, empirique, quotidienne, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la réalisation d'une signification dans une existence ayant sens et cohérence. Quand une existence a sens et cohérence, elle peut être digne d'être appelée heureuse. Une existence qui est libre et une existence qui a du sens est une existence digne d'être appelée heureuse. C'est cela pour moi le bonheur, ce n'est pas la réussite au tiercé. Évidemment, les satisfactions empiriques, quotidiennes, passagères, éphémères. Mais tout cela suppose, bien entendu, qu'on décrive le bonheur. On peut le décrire mieux. Les utopies ne le décrivent pas suffisamment. Les utopies ne décrivent pas le bonheur. Les utopies ne disent rien, par exemple, sur l'allégresse. Terme d'une importance considérable pour moi et aussi dans les textes que vous connaissez. Les utopies disent peu de choses sur la joie. Les utopies disent peu de choses sur l'existence totalisée et signifiante dont je viens de vous parler. Il est clair que pour que tout cela se prenne un sens, pour que l'on comprenne que le désir de bonheur est en effet à la source de tous ces mouvements culturels d'arrachement, il faut que l'on ait une conception du désir toute différente de la conception qui est celle de nos contemporains. Nos contemporains, depuis Hegel, c'est-à-dire Hegel, Heidegger, Sartre et Lacan, ont une conception du désir qui est une conception négative. Le désir est un manque, le désir est une souffrance, le désir est un vide, le désir est la nostalgie et la poursuite nostalgique et quasiment impossible vers un lointain, d'ailleurs inaccessible. C'est ainsi qu'est décrit le désir dans notre civilisation. Alors on comprend que les philosophies pessimistes dont je parlais tout à l'heure est le primat. On comprend qu'elles aient tant d'importance. C'est parce qu'elles s'appuient sur une doctrine catastrophique du désir, une doctrine négative, une doctrine tragique, une doctrine triste, une doctrine du manque, doctrine qui rejoint curieusement les expériences quotidiennes que font la plupart des gens. Mais les gens font ces expériences quotidiennes avant qu'ils n'aient seulement songé à se reconstruire eux-mêmes et à reconstruire leur propre vie. C'est-à-dire que ces doctrines du désir et ces doctrines pessimistes s'appuient sur des expériences, les expériences les plus empiriques, les plus spontanées de la conscience la plus passionnelle et la plus aveugle. Alors il n'est pas étonnant que les gens se reconnaissent dans les philosophies tragiques, car les philosophies tragiques leur disent le tragique de leur existence mal construite. Mais cette existence est mal construite parce qu'elle n'a jamais essayé de se reconstruire, parce que les passions sont mauvaises, parce qu'elles sont la contradiction, parce que tout ça est bien vrai. On a oublié simplement une chose, c'est qu'on est précisément dans un ordre passionnel qui ne peut pas prétendre recouvrir la totalité des possibilités, des structures du désir. Et c'est pourquoi je dis que tout cela ne peut prendre sens que si l'on a une conception positive du désir. Conception que je propose et qui est une conception selon laquelle le désir est un mouvement dynamique qui n'est pas une souffrance, mais qui est presque une sorte de joie obtenue par la conscience même du mouvement qui se dirige vers cela qu'il y a à réaliser. Lorsque vous accomplissez des actions qui vous plaisent et dans lesquelles vous êtes heureux, vous avez l'exemple de ce que je veux dire. Or, ces actions existent. Il existe des actions qui nous donnent pleine satisfaction. Or, l'action, forcément, repose sur la différence entre le présent et l'avenir. Mais s'il existe des actions heureuses, des entreprises heureuses, repeindre son appartement, s'il existe des actions heureuses, cela veut donc dire que la différence entre le présent et le futur n'est pas tragique en elle-même. Que l'appartement ait une couleur qui ne vous plaît pas, et puis que vous en imaginiez une couleur autre, et puis que vous réalisiez cette couleur, prouve la distance entre le présent et l'avenir, l'heureuse distance entre le présent et un avenir qui dépend de nous. Si on a une conception positive du désir, alors on peut comprendre que le désir soit source de bonheur et crée les utopies et toutes ces cultures que j'ai dites. Naturellement, il faut opérer ce que j'appellerais une conversion du désir pour arriver à être en mesure de réaliser, d'accéder à ce que j'appelle le bonheur. Je me rends bien compte que, malgré tout, tout ce que je viens de dire, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, et puis je n'ai pas terminé encore, je vous demande encore 10 minutes.
Déjà.
Merci. Malgré tout, nous n'avons pas tout le temps qu'il faut. C'est pourquoi je reconnaîtrai tout à fait volontiers que, jusqu'à maintenant, ce que j'ai dit sur le bonheur peut à la fois avoir du sens et rester peut-être un peu abstrait malgré tout. Parce que, sans doute, vous êtes-vous dit en vous-même, bon, d'accord, repeindre son appartement, c'est marrant, mais tout de même, si c'est ça l'exemple qu'on nous donne pour une philosophie du bonheur, c'est mince. Vous êtes sans doute dit ça. Et c'est vrai. Donc, il faudrait que je décrive d'une façon plus concrète ce que c'est que le bonheur, ce bonheur qui mérite que, pour le réaliser, on construise des utopies ou des messianismes. Eh bien, le plus simple n'est pas du tout de le décrire intellectuellement, conceptuellement, dans un premier temps en tout cas, on peut le faire dans un deuxième temps, quand on est bien dans le bain. Mais dans un premier temps, le plus simple est de présenter cela d'une façon métaphorique. Et c'est cela qui vous explique, je m'excuse mais c'est un petit peu l'objet même de notre réflexion, c'est cela qui vous explique le caractère métaphorique du dernier ouvrage que j'ai publié et qui s'appelle « Construction d'un château ». Maintenant, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi il y a là une métaphore. Qu'est-ce qu'elle veut dire et pourquoi ? Pourquoi d'abord ? Parce que les concepts sont abstraits. Et si je vous parle du bonheur en vous prenant des exemples comme ça, le bonheur dans son métier, le bonheur en artisanat, le bonheur chez soi, le bonheur sur l'Annapurna, c'est abstrait, c'est pauvre, c'est pas vraiment tout ça. Si je vous prends une métaphore, si je cherche la métaphore la plus haute, la plus riche, que je n'aurai pas besoin de détailler pour vous faire sentir ce qu'elle veut dire indirectement, et dont je sais que vous sentirez bien ce qu'elle veut dire, si je pouvais trouver une telle métaphore, alors je n'aurais pas besoin d'expliquer conceptuellement d'une façon abstraite le bonheur. Cette métaphore, c'est le château. Le château, vous le savez, est l'imagination la plus profonde de cela qui est le plus désiré et le plus désirable. Et cette imagination du château se trouve dans toute la littérature mondiale. Par exemple, il y a chez Maïmonide l'idée selon laquelle, c'est à propos de la connaissance, mais il y a chez Maïmonide l'idée selon laquelle pour accéder à la connaissance, il ne faut pas rester à l'extérieur du château. Il faut entrer dans le château. Mais il prend l'image du château. Pour décrire quelque chose qui est inaccessible, mais qui serait tellement extraordinairement gratifiant si on pouvait l'atteindre, bien que ce soit inaccessible, Kafka écrit « Le château ». Lorsqu'on veut représenter des lieux exceptionnels, ou des moments exceptionnels, le romancier au Moyen-Âge, qui conduit ses voyageurs, il les fait déboucher sur un endroit, sur une plaine ou en haut d'une colline, où il y a au fond de la vallée ou sur la colline, un château. Le château est la représentation métaphorique de la plénitude existentielle. Je vous signale que même dans les psaumes et dans certains autres endroits dans la Torah, lu en français par moi, on trouve des expressions comme le palais du roi. Et le palais du roi, c'est, ça n'a même pas besoin d'être réel. Quand on dit le palais, on a tout dit. Le palais, le château, la chambre centrale du château. Je vous signale que dans l'île de la Cité du Soleil, après avoir traverser les premiers remparts, on arrive à l'intérieur à des constructions circulaires, et vu de l'intérieur, les constructions circulaires sont des suites de palais. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que Venise est Dubrovnik. C'est à Dubrovnik que je pense dans l'un des chapitres du livre dont je vous parle. Vous n'êtes pas sans savoir que Venise et Dubrovnik sont des villes de la Renaissance qui ne sont que des palais. Laissons de côté les considérations économico-politico-économiques, qui sont vraies mais pas toujours d'ailleurs, parce que Dubrovnik actuellement est une cité collective. Elle n'en a pas moins gardé ses palais. Donc ce qui importe, c'est pas la juridiction, on peut la changer la juridiction. Ce qui importe, c'est que la vie se fasse autour des palais. Parfois, une ville devient un château tout entière. Jérusalem, c'est un château. À un certain moment, dans les années 67, il existait de jeunes peintres israéliens qui représentaient Jérusalem. Je me souviens d'un de ces tableaux. Jérusalem était tout simplement les murailles et les tours, et tout cela était en or. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un palais privé, la maison d'un tel. Il suffit que la ville entière soit un palais. Et alors, à ce moment, on a bien le sentiment qu'il s'agit bien d'une vie heureuse et ayant accédé à la plénitude. Vous voyez, ici, je passe rapidement, parce que ce n'est pas le lieu d'y insister, mais vous voyez le lien indispensable à mes yeux entre poésie et philosophie. Ensuite, il faudra dire conceptuellement tout ce qui est contenu dans la métaphore, et on peut le dire. Mais ces concepts ne parleront que si d'abord on vous a parlé directement à votre imagination la plus profonde, l'imagination qui vous fait rêver. On ne rêve jamais que de choses importantes. Et le château est cela qui fait rêver et exprime le rêve le plus profond. Le château, maintenant, nous allons penser, si vous voulez, je vais vous donner ça en guise de programme, pour pas trop entrer dans le détail. Nous allons penser à ce que pourrait être une description du bonheur. Il suffit de penser à une description, à un déploiement de la métaphore du château. Si le château est un château Renaissance, en pierre blanche, dans un parc. Je vous signale en passant que ce dont je viens de parler existe. En plus, les châteaux existent. Ce ne sont pas seulement des rêves, ce sont des réalités. Que dans les châteaux ne vivent pas forcément ceux-là qui devraient y vivre, c'est une chose. Mais que l'humanité ait réalisé des châteaux, ça c'est indéniable. Et des villes d'art, comme on dit, ou des constructions qui représentent, les psychologues modernes parleraient de l'inconscience, c'est absurde, mais qui représentent l'imagination profonde. Alors, examinons cette imagination d'un château Renaissance qui existe. Qu'est-ce qu'on trouverait? Évidemment, une évocation de la splendeur et de la lumière. C'est intéressant qu'il y ait aussi le Zohar qui s'appelle le livre de la splendeur. La lumière est intérieure. Je vous signale que l'ouvrage de Sainte Thérèse, qui s'appelle le livre des sept demeures, porte comme sous-titre le château intérieur. C'est pour ajouter à la prégnance imaginaire de cette image, et que Kafka le reprendra cette image, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la lumière, il y a l'espace. Un château est forcément entouré d'un parc, et le parc est forcément vaste. Le parc est forcément vaste parce que sinon c'est un jardin. Et quand un parc est vaste, alors il ménage l'espace lointain dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des possibilités de circulation entre le centre et le lointain. Je pourrais décrire comme cela, longuement. D'une façon plus générale, je peux dire que l'architecture la plus matérielle qui soit d'un château, sa structure, ses façades, ses tours, sa disposition, son emplacement, l'architecture est significative de cela que je veux dire. Tous les châteaux Renaissance représentent des modalités singulières d'une conception du bonheur. Cependant, jusqu'ici, on pourrait penser que nous sommes dans la même situation que pour l'utopie. On décrit quelque chose peut-être d'un peu plus prégnant quand même, d'un peu plus proche de nos désirs profonds, certes, que les utopies un petit peu abstraites qu'on connaît, mais on n'a fait quand même que décrire quelque chose qui semble bien inaccessible. C'est beau un château, mais enfin, nous ne vivons pas dans des châteaux, est-ce qu'on ne va pas reconnaître cela? Est-ce que le château, en réalité, ne doit pas être toujours décrit comme le fait Kafka, comme l'impossible? Si on décrit un château réel avec toute sa perfection, comme ayant été là avant moi, il est clair que la manière dont je vais le décrire va l'éloigner encore plus. Voilà pourquoi moi j'ai souhaité construire ce château au lieu de le constater et de le poursuivre. Si on poursuit une réalité, il est fort possible qu'elle vous échappe. Mais si vous la construisez, elle ne peut pas vous échapper puisque vous la construisez. Et voilà pourquoi il y a la construction d'un château. Il faut construire soi-même un château qui sera le résultat d'un long itinéraire, dans le détail duquel je n'entre pas, mais qui doit manifester la plus entière lucidité quant au combat qu'il y a à mener dans la société. Et en soi, la construction d'un château, c'est une métaphore pour dire la construction d'un itinéraire qui vous mène de la passivité passionnelle à la pleine maîtrise de vous-même. Alors, si on a une telle philosophie, on peut comprendre désormais que messianismes et utopies vont beaucoup plus loin, même qu'on ne le disait. Mais, une nuance ici, si j'ai construit le château, c'est que j'ai intégré l'accès de la plénitude, ou j'ai conditionné l'accès à la plénitude à l'immanence. Je veux dire, j'ai inscrit dans l'immanence et j'ai confié à l'humanité le soin de construire sa joie et sa liberté. Voilà pourquoi une telle philosophie peut fonder les utopies, mais en partie seulement les messianismes. Car le messianisme s'appuie sur quelque chose qui n'est pas humain, le messianisme traditionnel, qui dépasse la finitude humaine. Au lieu que ce que je veux construire est quelque chose qui soit à la fois loin par la différence par rapport au réel et près par la possibilité humaine de le construire. C'est pourquoi, personnellement, je serais plus près des utopies que des messianismes classiques. Messianisme classique. Tout prêt à reconnaître que dans les utopies, en fait, il y a un mouvement messianique qui s'ignore, mais qui serait cette fois un messianisme humain. Alors, je ne vous parle pas du détail de l'itinéraire dont je viens d'évoquer les grandes lignes. Je vous signale qu'on pourrait entrer dans le détail de la conceptualisation abstraite des contenus du bonheur. Je ne le fais pas, je n'ai pas non plus là vraiment le temps et puis notre attention pourraient se relâcher, puis il faudrait que nous discutions un peu, je vais essayer de conclure. Je conclue sur l'idée suivante, c'est que les utopies ne peuvent trouver leur fondement que dans une philosophie du bonheur, et cette philosophie du bonheur ne peut s'appuyer que, premièrement, sur une doctrine du désir, deuxièmement, sur une transmutation du désir, qui ne doit plus être le désir instinctuel, spontané, ordinaire, qui cause les passions et les contradictions. Je terminerai, ça c'est une conclusion bilan, je vais terminer maintenant par une conclusion question. C'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose et que je me pose. Est-ce que l'on peut éduquer autrui au sens du bonheur? Est-ce qu'on peut apprendre le bonheur aux autres? Pas leur donner le bonheur, ça c'est une autre question. Mais est-ce qu'on peut éduquer les autres à se soucier du bonheur et à découvrir que c'est cela qui en réalité compte et que c'est cela qui est refoulé partout, par le sérieux, par la bureaucratie, par les soucis matériels, par la culture répressive, par nos habitudes, par nos croyances, notre pessimisme. Est-ce qu'on peut enseigner les gens à se situer dans la perspective d'une recherche du bonheur fondée sur la prise de conscience des pouvoirs du sujet? C'est sur cette question que je terminerai.
Merci. C'est assez extraordinaire comme convergence, mais la question de chute de Robert Mizrahi a rejoint une des questions que nous avons envisagées ce matin dans la première étude de texte, à la suite de l'intervention d'une étudiante qui n'est d'ailleurs pas là dans la salle, mais tout est collectif quand même. Et nous y reviendrons certainement. Et avant toute chose, je voudrais vraiment remercier Robert Mizrahi de cette belle leçon de philosophie, qui était très riche dans le contenu et très brillante dans la forme. Il y avait, je ne sais plus comment dire, poésie et philosophie, ou philosophie et poésie, mais c'était ça. Et je vous donne immédiatement la parole, mais peut-être que notre conférencier pourra aussi, en répondant à la salle, toucher ce petit point qui m'intéresserait. Et y a-t-il une différence entre le différé de l'utopie tel que tu l'as décrit et finalement quand même le différé messianique tel que tu y as fait allusion au début dans l'introduction? Et je voudrais simplement citer, pour éclairer ma question, un verset concernant Abraham, le commencement du chemin long. Donc, qui commence à Abraham, et le verset dit « Vayar et hamakom merachok ». Il a commencé d'abord par voir l'endroit de loin. Il y a donc là l'indication d'un différé. Et j'ai retrouvé dans la description du différé de l'utopie ce que nous apprenons de nos maîtres du différé messianique. Bon, c'est un petit point, mais qui me semble important à élucider. Et ensuite, je me réserverai peut-être en conclusion, d'essayer de réagir, il me faut un peu de temps, à ton excellente analyse. Peut-être, tu pourrais nous dire aussi en passant quelque chose sur l'expression « château en Espagne », sans que ce soit forcément sfaradi, mais est-ce que ça peut s'intégrer?
Oui.
Bien, vous avez la parole.
Je te répondrai, mais quand tu voudras, après.
Entre-temps.
Oui, j'ai essayé de dire que cela révélait notre pouvoir de dépassement du présent, d'invention de l'avenir, de comparaison des différentes valeurs. J'ai fait la liste de tout ce que cela évoquait et qui était réel, c'est-à-dire que cela révèle des structures réelles de la conscience humaine, de nos pouvoirs.
Oui.
Personnellement, je ne renvoie pas à une autre dimension. parce que l'idée de sens, pour moi, pose la conscience forcément au centre de toute référence. Même si vous faites une description métaphysique ensuite, elle aura sens pour vous, sujet. Donc en tout cas, personnellement, le sens auquel je me réfère est un sens strictement humain. La plénitude étant une jouissance, et pas seulement du sens, c'est la jouissance du sens de l'existence, cela, ça a du sens et ça a une autonomie suffisante. La jouissance de l'existence, c'est sa propre finalité. Elle n'a pas d'autre sens que celui-là.
Peut-être qu'il faudrait expliquer le mot de jouissance.
Oui, oui, oui. Il s'agit de la jouissance, ce n'est pas seulement la jouissance matérielle, c'est le fait de jouir de l'existence ou d'être heureux de l'existence, d'être heureux du déploiement temporel de l'existence. Voilà pour l'un des aspects, une des questions que vous avez posées. Si je crois que chacun décide à sa façon, là, bon, il n'y a pas à transmettre des démonstrations. Pour votre deuxième question, ce sera très bref, pour votre deuxième question, je suis tout prêt à répondre avec vous la chose suivante. Il n'est pas sûr que seuls nous puissions réaliser tout cela. Il faut d'abord que nous fassions la plus grande partie du chemin, puis ensuite, peut-être faut-il passer à une pensée politique. Bien entendu. Il faut peut-être aussi que la société suive. Voilà pourquoi les utopies m'intéressent. Elles sont le sentiment que le sujet ne peut réaliser sa plénitude qu'en transformant aussi la société. J'ajoute, en transformant aussi, mais après, la société. Il faut d'abord agir soi-même et se transformer soi-même. Puis après, tous ensemble, on arrive à faire des choses. Est-ce qu'on aboutit à la totalité de ce qu'on voulait ? Peut-être oui, peut-être non, mais je ne dirais pas forcément non. Non, en raison de notre finitude, de notre limitation, de notre culpabilité. Non, non, non. Nous pouvons réussir et nous pouvons échouer. Oui, la question est extrêmement importante, je t'en remercie, elle me permet de préciser la chose suivante. L'ailleurs ne sera pour moi pas évidemment ailleurs que sur la Terre, il ne sera pas forcément très loin de l'autre côté des océans, tu as tout à fait raison. L'ailleurs sera ici autrement. C'est ce que j'appelle le tout autre. Le bonheur, l'être, le sens, la demeure de l'être, sont accessibles si nous opérons une transmutation de la réalité où nous sommes, du regard que nous portons sur la réalité, de nos relations avec les autres, de leur conception du monde, de nos propres conceptions du monde. C'est la transmutation sur place. Ce n'est pas de la magie, mais...
Allez, monsieur, et ensuite madame.
Je vais inscrire la mission en corroborant ce qu'on connaît d'affaires du château, qui nous souvient avoir les commandants François, au moment qu'il se passait dans le lit de la France, qui est l'étancelle de... Une femme, une boulangère, un enfant, des petits enfants. Et toute sa famille, un certain nombre de la journée, savait qu'elle était du là et on appelait ça son château. Son château, elle se retirait dans son salon et elle rêvait pendant une heure.
C'est très beau.
Toute la part. Et alors, je me souviens de la description de ce château, justement, c'était un jour où elle devait recevoir sa vieille sœur religieuse qui était chassée de son couvent, parce qu'elle était vieille, au monde de Macron, je pense. Et alors, elle disait, ma sœur religieuse régale de renoncer aux choses, et moi je me régale de les avoir. Alors, ce qui, ça avait resté plus longtemps, ce qui
m'a amené à ma question,
qui est celle que vous avez posée à la fin, peut-on éduquer les gens? Parce que cette éducation est faite d'un va-et-vient entre une restructuration du désir et une souffrance, avant de redécouvrir un nouveau désir qui nous fera parvenir à ce que nous avons, à l'éthique, à l'éthique. Mais je me demande peut-être sans céder, c'est dit comment.
Si j'ai posé la question, auparavant, je vous dis combien j'ai trouvé intéressant le roman auquel vous avez fait allusion, c'est en effet très, très prégnant, signifiant. Maintenant, pour répondre à la question de l'éducation, si j'ai posé la question, c'est que naturellement, j'avais moi une réponse. Une réponse, pas un moyen. Une réponse affirmative. Je me dis, oui, on peut. Le moyen, je ne sais pas, pour moi, le moyen, c'est, chacun de nous a un moyen. Pour moi, le moyen, c'est l'enseignement de la philosophie. Le but de la philosophie, pour moi, c'est cela, apprendre les gens à faire leur propre joie et leur donner les moyens de faire en sorte qu'ils construisent leur propre joie. Je crois qu'on peut. Et il y a, comme dirait Spinoza, le chemin est ardu, mais il existe. Il faut commencer par lire Spinoza.
Et madame, d'abord.
D'un autre monde.
D'une représentation du monde qui n'existe pas en ce moment. Et cette représentation du monde est comme elle est faite d'un tas de choses complexes, qui peuvent être très nombreuses, quand on tend vers la réalisation de cette représentation. Je crois que.
Oui, j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure que certains auteurs pensent qu'elle peut être dangereuse par la rationalisation abusive, par la bureaucratie. Oui, mais je préfère. Et elle impose, oui. Voilà, alors, voilà un point que je n'ai pas abordé. Je vais me permettre de l'aborder. Là, je vais vous demander de me permettre 5 minutes de développer une réponse un peu détaillée. Je crois qu'il n'y a pas de lien. Malgré ce qu'on a affirmé, malgré ce que Julien Freund affirme dans « Violence et utopie », malgré ce que vous avez l'air d'affirmer en ayant cité, tout de même, les mots ont du sens, en ayant cité Hitler, je crois qu'on fait des confusions d'une ampleur insondable entre l'idée, oui, je sais, entre l'idée de programme politique et l'idée de utopie. Brejnev aussi a un programme politique qu'il veut appliquer avec rigueur. Tous les totalitarismes fascistes et communistes sont en effet des programmes rigoureux à appliquer avec rigueur, avec tous les moyens de la violence que possède le pouvoir. Je ne dis pas de la violence politique, de la violence que ce pouvoir politique possède. Mais ce ne sont pas des utopies. La mystification, elle est là. Elle est de faire croire que ce sont des utopies. Elle est de faire croire, pour essayer de rabattre les gens sur l'absence de pensée, sur l'absence de réflexion, sur l'absence d'exigence, pour les rabattre sur une satisfaction simplement immédiate et matérielle, de leur faire croire que tout ce qui est un projet lointain est une utopie et que toute utopie comme ça tourne au fascisme. C'est une mystification. Ces programmes politiques, totalitaires, rationalistes, ne sont pas des utopies. Pourquoi ? Vous voyez bien que le thème fondamental que j'ai essayé d'amener est d'une importance considérable pour nous faire voir clair. Pourquoi est-ce que ces systèmes ne sont pas des utopies ? Parce qu'ils ne visent pas à la réalisation du bonheur tel que je l'ai défini. Ils visent seulement à la réalisation de la plus grande puissance.
Ça, c'est
Voilà, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que sa réalisation...
Voilà, par exemple, quelqu'un qui a pris cette utopie toujours réelle, c'est le Christ, qui me dit, moi je suis ici. Imaginez les Juifs...
Ah non, c'est le chrétien, pas le Christ.
Ça, c'est...
Oui.
Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous vous posez pour le Christ.
Ah non. Mais je veux répondre sur un autre... Je veux répondre à la question... Laissez-moi vous répondre. Je crois avoir compris la chose suivante dans votre question, qui rejoint un petit peu ce qu'on avait dit précédemment, d'une façon inverse. Vous dites ceci, est-ce que la réalisation, vous me dites à l'instant, la réalisation de l'utopie n'en est pas la trahison? Ne faudrait-il pas que les utopies restent toujours lointaines? Voilà. Voilà. Je regrette de vous décevoir. Oui, attendez. Oui, non, mais vous allez voir. Je regrette de vous décevoir, car c'est exactement ma doctrine. Oui, je pense qu'il faut être capable de dire à un moment, oui, c'est arrivé. Et ce que j'appellerais d'une façon un peu schématique, on me pardonnera ici, c'est juste schématique, ce que j'appellerais une pensée christianisante. L'essence de la pensée christianisante, donc rejoindrait mieux vos préoccupations, consiste à dire jamais maintenant, plus tard et ailleurs. Or, moi je suis en train d'essayer de dire que ce qui m'intéresse dans l'utopie, c'est que, en tant qu'elle est lointaine, elle est un moteur pour la réalisation, pour le mouvement du désir, et que, en tant qu'elle est humaine, elle est réalisable. Je prétends, et c'est cela, si vous voulez, le côté paradoxal de ce que je dis, que les châteaux sont réalisables, ici, maintenant. Si on n'affirme pas cela, on condamne l'humanité entière à toujours poursuivre un mirage, un château en Espagne. Et je ne veux pas... Mais nous sommes tous d'accord pour combattre le communisme, c'est... Mais bien sûr, mais il faut savoir... C'est eux qui sont à condamner, et pas essayer d'avoir les idées claires. Ceux qu'il faut condamner, ce sont ceux qui nous font passer. Mais nous, on ne parle pas de principe, on parle de la réalisation empirique qui n'est pas conforme au principe, à savoir les communistes, ce qu'ils font en réalité. On ne peut pas prendre des vessies pour des lanternes. On ne peut pas prendre les procès de Moscou ou bien l'état de guerre en Pologne pour la réalisation d'une doctrine socialiste. Donc c'est pas en question. Il faut que nous soyons suffisamment lucides. C'est eux qui se condamnent là. Je vous demande seulement de voir que si vous voulez condamner l'idée d'utopie, vous devez la condamner par d'autres raisonnements. C'est votre droit le plus entier.
Oui. Écoutez, on pourrait peut-être ordonner un peu plus le débat, parce que dès que ça s'accroche sur des malentendus de vocabulaire, ça risque de... il faudrait beaucoup plus de temps, ce serait peut-être un peu trop utopique. Une minute. Nous avons déjà près de 4 questions, 5. Très. Une minute dans l'ordre. Oui, monsieur, ensuite monsieur là-bas. Et ensuite monsieur Roski, et après vous, il y a un ordre, je suis désolé. Rapidement, je vous en prie.
Sur la fonction en tant que fonction, est-ce qu'on n'entraîne pas une prédominance de la valeur de l'esthétique? Non, certainement, on n'entraîne pas une prédominance de la valeur de l'esthétique, surtout pour les autres valeurs, ce qui finalement est assez proche de la civilisation dans laquelle nous sommes, avec des drames de ça.
Oui, une réponse très brève. Je donne en effet une grande place à l'art. Parce que l'art est le commentaire de la jouissance. C'est la jouissance au sens où je l'entendais tout à l'heure. La jouissance de vivre, c'est... vous faites de la peinture, de la musique. La jouissance de vivre, c'est d'écouter Mozart et puis vos œuvres. Je ne vois pas en quoi le fait d'écouter vos œuvres et d'y prendre plaisir va nous amener à des catastrophes insurmontables.
Non, non, non. Excusez-moi, maintenant, la parole est à monsieur. Vous aviez demandé la parole ?